Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Jeudi 2 avril, il est 7h30, c'est parti pour le journal, présenté par Cédric Vallax, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Encore une fois, l'actualité politique et sociale tiendront une large place dans cette édition avec la troisième et dernière séance de la session extraordinaire à l'Assemblée, seul dossier à l'ordre du jour, le projet de délibération concernant le retour de l'État au financement du régime de solidarité territoriale. La majorité risque d'être malmenée avec en toile de fond le conseil politique du Taoiseach ce soir, qui entérinera ou non l'exclusion de la Natetouanui et Nui Oloré. Nous ferons également, bien entendu, le point sur les grèves en cours. Déception au tribunal pour les familles des victimes du crash d'Air Moréa, tribunal qui n'a pris en compte que le préjudice d'affection pour indemniser les victimes sans faire droit aux autres demandes formulées par les familles. Nous clôturerons cette édition sur une note plus légère avec le reportage de Khadija Benouataf qui s'est promenée dans les allées du salon Rochefort Pacifique et par du sport avec la découverte des équipes de futsal de Rurutu qui font leur entrée dans le Festival des Îles. A tout de suite.
Alors, Edouard Fritsch tente le passage en force sur le RST.
Ce matin, les élus de l'Assemblée de la Polynésie sont convoqués pour la troisième et dernière séance de la session extraordinaire. Seul dossier à l'ordre du jour, le projet de délibération concernant le retour de l'État au financement du régime de solidarité territoriale à hauteur de 1,4 milliard de francs par an pendant 3 ans. Une séance qui s'annonce déjà très tendue pour la majorité. Après plusieurs réunions d'information entre le gouvernement et la commission de l'économie à l'Assemblée, Edouard Fritsch a déjà annoncé que l'État avait donné son accord pour retirer toute référence à la convention d'entreprise de la CPI. Dans cette convention RST. Selon nos informations, les points concernant l'unification des prestations familiales ainsi que la réforme de la fiscalité ont également été retirés de la mouture qui sera présentée ce matin aux élus. À cela s'ajouteront les amendements étudiés vendredi dernier. D'une part, le rajout dans le comité de pilotage de la convention RST de la présence du président de l'Assemblée, Marcel Tuani, et du président du CESC. D'autre part, la suppression de l'abondement du fonds pour l'amortissement du déficit social. Mais selon nos informations, le gouvernement s'apprête ce matin à déposer des contre amendement pour revenir sur ceux validés en commission. Reste à savoir si le président Edouard Fritsch trouvera une majorité à l'Assemblée. Il devrait se heurter aux 24 élus orange du clan Floss. Il pourra évidemment compter sur les 8 voix d'ATP et la question reste à de savoir où iront les 11 voix du PLD. Vendredi dernier, les élus du PLD avaient voté en faveur des amendements et contacté hier. Un élu indépendantiste s'apprêtait déjà à compter les points sur ce sujet dit sensible. Et avec les conflits sociaux en cours et la procédure d'exclusion du Taoiseach de Nui Oloré et la Natetouanui en toile de fond, la séance s'annonce donc comme électrique.
L'OPT est en grève et 21 agences sont fermées.
Aucun terrain d'entente n'ayant été trouvé entre la direction de l'OPT et les syndicalistes mardi soir, le préavis de grève est entré en vigueur hier matin. Dans la journée, la direction de l'OPT a confirmé compter 40% de grévistes et 21 agences fermées. Les représentants du personnel réclament la revalorisation de leur salaire et le non-versement des 1,5 milliard de francs de dividendes au pays. Pour l'heure, la direction et les syndicats campent sur leur position. Teiva Chavez est le délégué syndical du SAPOT, syndicat majoritaire à l'OPT et affilié à la CSIP. Il est au micro de Tamara Sentis.
La direction générale a répondu sur la plupart des points, sauf les points sur les dividendes versés au pays et sur le réajustement des salaires des agents de l'OPT. On souhaite trouver un accord et qu'on respecte ce qui a été signé en octobre 2014. Prévoyez une présentation en conseil de 2% d'augmentation pour tous les employés. Et jusqu'à aujourd'hui, ce dispositif n'a pas été appliqué, alors qu'il a été présenté 3 fois en conseil avec 3 reports de cette décision. Donc c'est pour ça qu'hier soir, quand on nous dit qu'on va encore saisir le conseil, on a des doutes sur la finalité, puisque 3 fois ça a été reporté. Concernant les dividendes, là aussi, on souhaite avoir une position claire, puisque le dernier prélèvement des dividendes date de 2013. Et on souhaite que pour les années qui viennent, 2014, 2015, voire 2016, le pays, on va dire, laisse l'OPT remplir ses missions de service public. On ne peut pas, d'un côté, pour nous, éprendre les dividendes et demander de grands chantier et surtout appeler dire qu'on n'a pas d'argent pour réajuster les salaires des agents OPT qui, sur les 10 dernières années, ont été gelés pendant 7 ans.
Voilà, la direction de l'OPT estime qu'une revalorisation de 2% des salaires lui coûterait 110 millions de francs, un coût qui peut paraître relativement faible comparé aux dividendes de 1,5 milliard de francs. Mais selon le directeur général Jean-François Martin, ces deux chiffres ne sont pas à mettre sur le même plan.
La direction s'en tient pour l'instant à la décision du conseil d'administration qui avait fait une proposition à la dernière séance du 17 mars qui n'a pas été soumise au vote finalement puisque le représentant du personnel au conseil d'administration donc avait déjà informé qu'il n'était pas satisfait de cette proposition. Donc on s'en tient à cette proposition-là. Il y a eu une avancée hier de proposer puisque l'application de la relation était au 1er janvier 2015. Là, on avait proposé d'intervenir au 1er janvier 2014. Et ils n'ont toujours pas accepté la deuxième qui est en fait le 1% sur 2015.
Est-ce que ça vous semble déraisonnable comme requête?
Ce que que je comprends, c'est qu'il y a un lien qui est fait entre la demande de relation de salaire et la distribution de dividendes. Les sommes, effectivement, en comparaison, peuvent paraître déséquilibrées, mais ce ne sont pas les mêmes circuits de financement. Là, on est sur le résultat de l'OPT de l'exercice 2013, tandis que là, on est sur une augmentation des salaires sur 2014 et 2015.
Hier soir, la direction attendait toujours de recevoir des nouvelles des syndicats, et vice-versa d'ailleurs, pour cette première journée de grève. 21 des 84 agences OPT de Polynésie ont fermé leurs portes. D'autres fonctionnent en sous-effectif. Pour savoir si la vôtre est concernée ou non, vous pouvez consulter la liste des agences ouvertes sur le site www.opt.pf.
Les grévistes de la CPS, eux, sont sommés de cesser le blocage.
Le tribunal a ordonné hier la levée des blocages des grévistes sur les accès véhicules et piétons de la Caisse de prévoyance sociale. La demande avait été faite par la direction de la CPS lundi matin. Dans sa décision, le tribunal a rejeté l'argument des grévistes consistant à dire que la direction était responsable du blocage des grilles du siège de papeterie. Le tribunal a décidé la libération des voies d'accès au besoin avec le concours de la force publique. La décision est exécutoire et ne prévoit aucune astreinte, comme le précise l'avocat de la CPS, maître Benoît Bouissy.
L'action de la CPS est déclarée recevable, trouble manifestement illicite est constaté et le tribunal ordonne la libération des accès véhicules et piétons de la Caisse de prévoyance sociale et au besoin avec le concours de la force publique.
Est-ce que vous allez faire appel à la force publique?
Si c'est nécessaire, mais je pense qu'aujourd'hui la raison doit l'emporter. Au travers de cette décision, le tribunal a rappelé la loi, c'est-à-dire le libre accès aux locaux de l'entreprise. Les grévistes et en tout cas les barrages accès, encore une fois, aux accès véhicules et piétons doivent être levés immédiatement. La décision est exécutée.
Vous êtes satisfait du délibéré?
Absolument. Il faut que cet établissement retravaille. Il faut qu'il puisse satisfaire les usagers. C'est ça la priorité, que les négociations continuent ou qu'elles ne continuent pas. C'est secondaire.
Les demandes des grévistes ont été rejetées. Elles concernaient la reprise des négociations, le respect du protocole d'accord signé le 8 mars dernier ou encore la convocation du conseil d'administration de l'établissement. Du côté des grévistes, le trésorier de la CSIP, Eugène Sommer, s'affirme toujours que les entrées ne sont pas bloquées par les manifestants et que la fin du conflit doit passer par une rencontre avec le président Édouard Fritsch.
Et les grévistes n'ont jamais bloqué l'entrée. C'est la direction qui a demandé à la vigile de cadenasser l'entrée.
Oui, mais Eugène, là, il demande à ce que les accès pompiers soient libérés.
Non, mais ça gêne pas du tout. Les palettes des pompiers peuvent rentrer, et les cotisants peuvent rentrer.
Mais est-ce que vous allez appliquer ce qui a été délibéré aujourd'hui?
Avant d'appliquer, il faut d'abord nous signifier le jugement. On ne va pas appliquer maintenant, non? Donc, il nous demande simplement de laisser le passage ouvert, mais jusqu'à aujourd'hui, le passage est ouvert. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas régler avec le président de la CPS et le directeur de la CPS. Ils n'ont pas de pouvoir. C'est au président du pays à prendre une décision.
Et puis, déception au tribunal pour les familles des victimes du crash d'Air Montréal.
Indemnisé mais déçu, c'est le sentiment qui se dégageait hier des principaux avocats des familles des victimes de la catastrophe d'Air Montréal le 9 août 2007. Le tribunal a accordé des indemnisations allant de 6 millions de francs à 100 000 francs, mais surtout il n'a pris en compte que le préjudice d'affection sans faire droit aux autres demandes formulées par les familles. Le 26 février dernier, lors du procès sur les intérêts civils du crash d'Air Montréal, les avocats des familles des victimes avaient demandé 2,4 milliards de francs en demandant la reconnaissance de préjudice psychique, d'angoisse ou d'anxiété. D'où la déception des avocats des familles de ne trouver que la prise en compte d'un préjudice jugé classique. Pour l'heure, le jugement n'a pas encore été transmis aux parties qui n'ont pu que le consulter. On saura dans les prochains jours si ces familles décident de faire appel.
Et un peu de culture maintenant avec le salon Rochefort Pacifique.
Un salon consacré aux cultures océaniennes qui s'est tenu le week-end dernier. Notre correspondante Khadija Benouattafa y a rencontré quelques auteurs du Pacifique et surtout des Polynésiens. On écoute son reportage.
Les invités du Salon du Livre de Paris ont joué les prolongations au Salon du Livre et du film Rochefort Pacifique en Charente-Maritime. Il y avait Serge Massot, de la jeune maison d'édition Pacific Islanders.
Après avoir publié l'an dernier notre merdile à Tahiti, on présente cette année L'Océan est en nous, toujours des Peliaofa, un texte qui a été publié il y a une quinzaine d'années en anglais et qui sort aujourd'hui en français, qui est toujours un peu plus d'actualité, puisque Peliaofa appelle à avoir un projet commun pour les océaniens, centré autour de la protection des océans. Et c'est Matei Toutavé, le cofondateur de l'association Fafaïté, qui a fait la préface de ce livre.
Teheyura, vu à la télé, submergé par les demandes de selfies, présentait son livre de cuisine avec dégustation.
J'ai un atelier de cuisine cet après-midi. Au menu, il y aura un bar aux sauces tamarins et petits légumes. La petite histoire, c'est une recette que j'ai ramenée d'une de mes aventures au Cambodge. On avait gagné par équipe, super confort. J'ai une famille de pêcheurs et j'ai cuisiné avec la maman de A à Z. Et voilà, donc c'était un clin d'œil justement à cette petite famille.
Il y avait Michel Dechazeau venu dévoiler les trésors du Tifeifei.
Ce qui nous a surpris, Marie-Noëlle Frémy et moi-même, puisque nous avons rédigé cet ouvrage, c'est de voir qu'il y avait des trésors cachés dont on parlait mais qu'on ne nous montrait pas. Il y a des motifs qui appartiennent aux familles, des dessins, des créations qui sont cachés encore maintenant et qu'on ne voulait pas nous offrir à la photographie, de peur qu'ils soient copiés ou de peur qu'ils soient dévoyés, qu'ils soient mal utilisés. On s'est aperçu que c'est un trésor familial et que ce trésor, on ne le divulgue pas facilement. Le secret du Tifeifei, pour moi, c'est celui-là.
Enfin, il y avait le slameur, poète et chef de clan Kanak, Paul Ouamo, et son message, sage.
Je marche devant avec un derrière entre deux chaises. J'essaye les bonnes positions, je veux me sentir à l'aise. À cheval entre deux chemins, on ne me demande rien. On me dit d'aller de l'avant sans perdre d'où je viens. Je suis un être hybride, à moitié, moitié. Un doliprane, moitié plante médicinale. Un hip-hop, moitié chap-chap. Je nage entre deux eaux. J'essaye d'éviter la noyade. J'essaye de nager comme il faut. Entre deux langues, entre deux mondes. Entre deux, je nais. Je meurs, je nais, 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 je meurs, je nais.
Radio de Benoîtaf, à Rochefort. Pour Radio One.
Oups, pardon madame, il est 7h42, on passe au sport.
Premier sur le sport, avec sportaiti.com.
Et Rurutu fait ses débuts dans le futsal.
Depuis lundi, ils sont 1708 footballeurs de 116 équipes à se retrouver chaque jour sur les terrains de football, futsal et beach soccer de Tahiti pour s'affronter dans le cadre du Festival des îles. Tout au long de la semaine, Radio 1 met chaque jour en lumière l'une des îles participantes. On s'intéresse aujourd'hui à Rurutu. Cette année, les footballeurs de Rurutu participent au Festival des îles pour la toute première fois. Leur délégation comprend deux équipes de futsal, l'une féminine, l'autre masculine. Morehao Tetohu est la présidente du comité de futsal de Rurutu. Elle nous explique comment ont été sélectionnées ces équipes. Elle est au micro de Tamara Sentis.
Les clubs étaient déjà créés sur Rurutu, donc voilà, on leur a juste proposé ceux qui veulent participer de s'inscrire. Du coup, on a eu 8 équipes masculines et 7 équipes féminines. On a organisé un championnat et le gagnant à l'issue de ces championnats aura la chance de participer au Festival des îles 2015. Ils voulaient vraiment partir, donc ils ont tout fait pour y participer, pour y arriver.
Quel est le niveau de futsal à Rurutu?
On ne sait pas, c'est ici qu'on le saura. Ben, on est quand même venu pour essayer d'aller chercher la première place, mais quelque part, c'est notre première participation, donc on essaie de voir un peu le niveau aussi et de prendre l'expérience.
Et les joueurs, tu les sens comment?
Ben, ils sont émus déjà d'être là et ils ont un peu du mal à démarrer. Là.
Rurutu n'a pas fait de début si chaotique que ça dans la compétition puisque les hommes n'ont pour l'instant perdu qu'un seul match, celui contre Bora Bora 2, et ont fait 2 matchs nuls face à Takaroa et Likitea. Les femmes ont perdu contre Hao et Taha, mais l'ont remporté face aux joueuses de Nuku'iwa. On passe au journal des sports de nos amis sportaiti.com, un journal présenté par Purunena qui nous parle de bodyboard, de tir au pistolet et de voile.
Hier, on attaque notre journal des sports par du bodyboard et du kneeboard avec la deuxième étape du championnat de Tahiti qui s'est déroulé le week-end dernier sur le spot de Taharu à Papara. Avec des conditions de vagues moyennes, la participation était timide. On retiendra la victoire de Moroni Temahuki qui en profite pour s'imposer en open. Tuhiti Tofa est vainqueur en dropni, tout comme Matei Germain chez les juniors. En e-board, c'est l'infatigable Eimata Carole qui s'impose. Sans transition, on passe au tir au pistolet. Et oui, ça existe à Tahiti et sporttahiti.com en parle. Donc, l'association sportive de tir de Tahiti a organisé le week-end dernier son premier concours de tir au pistolet de l'année 2015. Cette compétition a confirmé à la fois la domination actuelle de Freddy Yenkwe sur la discipline et la présélection de Gabriel Lançon et Jean-Pierre Mihoura. Enfin, à l'international et en voile, l'ambassadeur ATN Billy Besson et sa partenaire Marie Rioux restent en tête à l'issue de la troisième journée de compétition qui se déroule actuellement à La Palma en Espagne. On est arrivé au terme de notre journal. Vous pouvez retrouver plus d'informations, plus de photos et de résultats sportifs sur notre site www.sporthaiti.com. Et avec la banane, comme le dit Moreto, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.